Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie pour ce nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire. Il y a un peu plus d'un an, au cours d'une émission spéciale, j'avais invité au micro de Canal Académie le scénariste et dessinateur Patrice Pellerin, auteur de la fameuse série L'Épervier. Le héros de cette bande dessinée, pour mémoire, évolue dans la France du XVIIIe siècle, dont l'évocation par l'auteur est d'une rare justesse. Entre les ors du château de Versailles et les quais du port de Brest, entre les neiges canadiennes et les marais inquiétants de la Guyane, l'œuvre de Pellerin mérite un intérêt certain, dans la mesure où elle réconcilie bande dessinée et histoire. Je vous propose, au cours de cette nouvelle émission, de découvrir un tout autre univers, loin de l'Occident des temps modernes, puisqu'il s'agit de la bande dessinée japonaise que l'on appelle communément les mangas. Il serait hâtif de condamner le genre dans la mesure où, comme tout art, la bande dessinée est d'abord intimement liée à l'histoire d'un pays, une histoire qui fascine bien au-delà des frontières du Japon, puisque les bandes dessinées nippones ont une influence dans le monde entier et tout particulièrement en France. Quand et comment est né le manga ? Peut-on parler des mangas comme un genre unique ou bien faut-il en segmenter les styles et les scénarios ? Quelles en sont ces expressions à travers le siècle dernier et que représente-t-il à l'aube du 21e siècle ? C'est ce que je vous propose de voir avec Karine Poupé. Karine Poupé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez de très loin, puisque vous venez du Japon.
Mais oui.
Vous êtes donc spécialiste, tout d'abord du Japon. Vous travaillez pour l'AFP en tant que correspondante permanente depuis 5 ans. Vous y vivez depuis 8 ans. Vous avez d'ailleurs écrit un livre paru chez Talendier, Les Japonais, un livre qui a reçu en 2009 le prix Shibuzawa Claudel. Et vous venez de publier chez le même éditeur une histoire du manga. Alors, avant d'aborder cette histoire qui est passionnante, hein, votre livre, nous le disions avant cette émission, en off, votre livre est très fouillé et très fourni, et vous me disiez votre frustration d'en avoir retiré une centaine de pages, et c'est aujourd'hui un livre de plus de 350 pages. Alors, avant d'en venir à cette histoire du manga, tout simplement, d'où vient cet amour du Japon ?
À vrai dire, je connais pas la raison exacte pour laquelle je suis un jour partie au Japon, mais je sais qu'à partir de ce moment-là, j'ai découvert une société qui m'a marquée, une société que j'ai voulu comprendre. Et donc, toute ma quête depuis 1997 au Japon est de comprendre cette société. J'en apprends tous les jours sur cette société et ce que j'apprends, j'essaie de le retransmettre. Alors, soit à travers mes articles pour l'AFP, soit à travers les livres, ce qui est un exercice plus complexe, plus fouillé, qui exige un travail de recherche dans le passé du Japon. La société japonaise a un parcours extrêmement particulier, surtout depuis 1868, la réouverture vers le reste du monde, et puis depuis 1945, la défaite à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, et ça c'est extrêmement marquant. Et après cette défaite, la réaction du peuple japonais est pour moi émouvante. Je me dis toujours que si on avait mis des Français à la place des Japonais dans cette même situation, il ne se serait pas produit la même chose, et j'ai cherché à savoir pourquoi.
Donc c'est une motivation intellectuelle, entre autres.
Oui, je suis très curieuse. En fait, je me considère comme une éternelle étudiante, hein, bien qu'étant journaliste. Donc j'étudie tous les jours.
Alors, une question pour aller donc vers le monde des mangas. Faut-il connaître les mangas pour connaître le Japon et pour appréhender cette culture japonaise ?
Ah, y a une réelle interaction entre les deux. Moi, je pense qu'en lisant des mangas, on comprend une partie de la société japonaise, mais pas suffisamment pour pouvoir y vivre et pour pouvoir en décrypter tous les codes. Et inversement, quand on vit dans la société japonaise, on n'a pas en main tous les éléments pour pouvoir comprendre le manga. Le fait est que la société japonaise et le manga ont évolué de façon parallèle avec des interactions tellement nombreuses que je les imaginais pas telles avant d'écrire le bouquin. J'étais partie dans l'idée d'écrire une histoire parallèle de la société japonaise et du manga, en me disant, bon, il y a bien des coïncidences entre les deux. Eh bien, il y en a sans arrêt, beaucoup plus que je l'imaginais. Et plus j'avançais dans mon ouvrage, plus j'étais ravie de découvrir à quel point les deux étaient intimement liés.
Alors c'est un monde, le monde du manga, c'est un monde d'abord de quantité. On est impressionné, vous décrivez dans les première page de votre ouvrage, ces librairies avec ces milliers et ces milliers de mangas.
Oui, alors ça n'a pas toujours été le cas. Hein. On a vraiment une évolution du manga sur 150 années qui est une évolution en volume. Alors à l'heure actuelle, et encore, nous ne sommes pas au maximum de l'importance du manga dans la société japonaise. Le maximum, c'était dans les années 90. Il n'empêche qu'aujourd'hui, au Japon, sortent 12 000 nouveaux tomes de manga par an. Que ce marché représente plus de 3 milliards d'euros par an, qu'il se vend la bagatelle de 410 millions de tomes de manga par an au Japon. Si je vous donne une comparaison, on dit qu'en France, le manga, c'est un phénomène d'une ampleur exceptionnelle. Eh bien, ce ne sont que 13 millions. Donc, on est dans un rapport qui n'a rien à voir. Et je vous dis, hein, ça a chuté de moitié en 15 ans. Donc, il fallait voir ce qu'était le phénomène manga au Japon dans les années 90.
Vous parlez tout au long de votre ouvrage, nous allons y revenir, mais des magazines consacrés au manga, mais on est stupéfait par les tirages. Jamais, on pense à notre Spirou magazine, jamais Spirou n'a atteint de tels niveaux.
Comme quoi, effectivement, le manga est au Japon un phénomène de société transgénérationnel et il est devenu ce qu'il est parce qu'il a accompagné toute une génération d'auteurs et toute une génération de lecteurs. Et ce qui est particulièrement étonnant, c'est que cette génération de lecteurs, eh bien, c'est celle qui a reconstruit le Japon après la guerre. C'est la génération qu'on appelle Dankai no Sedai, on pourrait les appeler les baby boomers, c'est-à-dire les gens qui sont nés dans l'immédiate après-guerre, qui ont fait du Japon ce qu'il est, c'est-à-dire la deuxième puissance économique mondiale. Et le manga a pris le même train. Le manga a grossi comme le Japon a grossi dans cette période-là.
Alors, le premier qualificatif que vous utilisez, donc, c'est cette notion, enfin, cette idée de quantité. Vous engagez en fait votre réflexion à la première page à travers une rencontre, celle d'un grand dessinateur français, Giraud, et scénariste français. Et c'est très intéressant de voir au fond, cette différence culturelle, donc il y a cette différence de quantité qui est très importante, mais aussi dans le style, le souci du détail. J'essaie de camper un peu l'esprit du manga de manière générale pour nos auditeurs qui le connaissent moins.
Oui,
le souci du détail.
Le souci du détail, c'est effectivement ce qui a frappé Jean Giraud, donc Moebius, lorsque pour la première fois, il a découvert le manga dans des circonstances un petit peu particulières en étant invité par celui qu'on appelle le dieu du manga, Osamu Tezuka, qui aujourd'hui est décédé, mais qui était un parfait inconnu lorsqu'il s'est promené dans les couloirs de l'exposition d'Angoulême, et que Jean Giraud a rencontré comme ça un petit peu par hasard, que Jean Giraud a revu au Japon, et où là, il me dit, effectivement, je me suis retrouvée devant le manga comme Christophe Colomb devant l'Amérique. J'ai découvert un monde exceptionnel, et qui a remis en cause la manière dont Jean Giraud lui-même abordait le dessin et la bande dessinée en considérant qu'elle était extrêmement élaborée, qu'elle était dans une démarche artistique beaucoup plus construite. Et d'un seul coup, en voyant le manga, il s'est rendu compte de certaines limites de la bande dessinée, tout en considérant par ailleurs que le dessin de Tezuka était infantile. En tout cas, ça a instillé le doute, ça a instillé la curiosité, à tel point que Moebius a été l'un des tout premiers à promouvoir le manga dans sa sphère d'amitié en France dans les années 80.
Alors, il y a aussi un autre aspect, avant de rentrer dans le détail de l'histoire du manga, c'est l'idée de déferlante, de véritable... Il y a une attraction pour le manga qui est réelle. En France, hein, vous parliez de 14 millions de tirages, c'est une bande dessinée qui est pas chère, qui est facilement transportable, à la différence de nos bandes dessinées traditionnelles. Donc, il y a un véritable succès. Mais pour toute chose qui a du succès, eh bien, il y a l'effet contraire. Il y a une certaine peur devant cette déferlante. D'abord, est-ce que cette déferlante existe qu'en France ou elle existe partout ailleurs, notamment aux États-Unis? Et comment, au fond, ne pas avoir peur en face de cette déferlante?
Alors, cette déferlante, elle n'existe pas partout. Non, il y a des pays où ça ne prend pas le manga. Les gens de la maison de production de Tezuka m'ont affirmé qu'en Grande-Bretagne, le manga ne prenait pas. La France est considérée comme le deuxième marché du manga derrière le Japon lui-même, tout en sachant que c'est, par rapport au Japon, c'est une goutte d'eau. En Asie, le manga fonctionne bien parce qu'il est aussi accompagné, comme dans le reste du monde, par le dessin animé. Hein, il faut savoir que ce sont deux choses intimement liées et que des gens qui ne lisent pas forcément de manga sont quand même attirés par les histoires qui sortent des mangas et qui sont diffusées à la télévision. Bon, donc il y a cette première chose. Quant à la méfiance que peut susciter le manga, elle est aisément compréhensible. D'abord, il faut se souvenir, et moi je m'en souviens très bien parce que c'était ma génération, qu'au début des années 90, on disait « pique-pendre » des dessins animés japonais. C'était le pire qu'on pouvait diffuser sur une télé commerciale. Dans ce contexte-là, il y avait des tensions économiques également entre la France et l'Europe et le Japon. Bon, tout ça était assez mal coté. Aujourd'hui, il est vrai que lorsque des parents prennent les mangas que lisent leurs enfants, ils peuvent tomber sur des images extrêmement crues, considérées parfois comme violentes. Bon, dans la mesure du possible, je crois que les éditeurs font plutôt bien leur travail de sélection pour éviter ce qu'il y a de pire dans la production japonaise. Parce que moi, je peux vous garantir qu'au Japon, il y a bien pire que ce qu'on exporte en France. Néanmoins, comme il y a une incompréhension des parents face à ces images, qui sont des images auxquelles on n'est pas habitué, la peur existe. Elle doit être atténuée, elle ne doit pas être totalement annulée, parce qu'il faut rester malgré tout vigilant. Certaines histoires qui sont proposées dans des magazines pour des adolescents d'une douzaine d'années au Japon sont pas vraiment recommandables pour ce lectorat-là, très clairement. Death Note, un manga qui est assez psychologique et assez dur, était proposé au Japon dans un magazine pour adolescents jusqu'à une quinzaine d'années. Moi, je considère plutôt que c'est un manga à lire à partir de 16-17 ans, voire au-delà. On peut très bien apprécier Death Note quand on est adulte. Donc il faut quand même rester extrêmement vigilant. Et puis moi j'indique, je pense que les parents doivent au moins une fois lire un manga pour se rendre compte que peut-être que dans la bande dessinée, la violence elle apparaît dans les mots et donc elle est moins visible au premier abord, alors que dans le manga, la dureté de la vie, la dureté de la société, une certaine violence, les sentiments apparaissent dans l'image. Et c'est ça la force du manga.
Alors je voudrais tout de même tuer une idée reçue, parce que vous parliez de Death Note, vous parliez des dessins animés, manga, et je me souviens très bien lors d'une émission télévisuelle, la pauvre Dorothée se faire agresser par Eric Zemmour sur le fait d'avoir importé les mangas et sur la pauvreté intellectuelle des mangas. Alors l'idée reçue que je souhaite tuer, c'est le fait qu'on ne peut pas parler du manga finalement en général. Il y a, si vous me passez l'expression, à boire et à manger, il y a des mangas avec des scénarios qui sont très très élaborés et il y a des mangas qui sont très pauvres sur le plan culturel, tant du point de vue scénaristique que sur le plan de l'image.
Ah oui, on va du prodigieux à l'abject dans le manga. Donc, et puis, surtout, il faut savoir une chose, c'est qu'au moment où ont été programmés en France sur les chaînes de télévision les premiers dessins animés japonais, eh bien, c'était erreur totale. On programmait à des heures ouvertes aux jeunes enfants, pour le jeune public, des dessins animés qui, au Japon, étaient conçus pour un public adulte et étaient diffusés la nuit. On avait des choses comme ça. Bon. Des erreurs de ce type-là, ça pardonne pas, évidemment. Alors, revenons au manga et à sa qualité. Évidemment, il y a de tout. Il y a absolument de tout dedans. Il y a même des histoires qui sont d'une platitude totale et c'est le but du jeu. Et les lecteurs les achètent pour ça, parce que c'est plat. Il y a un nom pour décrire ces mangas, c'est le yaoi. Eh bien, ça veut dire platitude totale. Alors, c'est un genre qui plaît à certains publics. Maintenant, quand on achète du manga, il faut savoir ce qu'on aime, il faut pouvoir s'enrichir d'une diversité et puis soi-même avoir l'œil assez exercé pour faire le tri. Il ne faut pas non plus considérer que les éditeurs sont des gens toujours pleins de bonnes intentions. Non, il y a des intentions commerciales également. Donc on commence à voir arriver en France des mangas qu'on préférerait voir rester au Japon.
Alors je vais pour mieux précisément définir la qualité du manga. Tout simplement, vous en demandez la définition. Vous commencez votre premier chapitre en donnant la définition. Il apparaît visiblement dans le Petit Robert en 95, c'est cela ?
Plus tard que ça. Je n'ai pas réussi à retrouver la datation exacte.
Exact. En tous les cas, il ne doit pas être dans le dictionnaire de l'Académie française, peu importe. Mais que signifie le mot manga ?
Il y a plusieurs définitions du mot manga, c'est bien complexe. Alors généralement, en France, on le traduit par image dérisoire. Et de mon point de vue, eh bien c'est inexact, parce que quand je cherche dans les dictionnaires étymologiques japonais, alors certes, ga veut dire image, mais man a beaucoup d'autres sens, et le sens dérisoire en lui-même n'apparaît pas. Donc c'est extrêmement compliqué. Alors moi je propose qu'on adopte une autre traduction littérale qui ferait plutôt référence à une des acceptions du mot man, ou en tout cas du kanji man, qui est la longueur, traîner en longueur, flâner, d'une longueur indéfinie, d'une durée indéfinie. Il y a cette notion-là aussi dans Man. Donc voilà, pourquoi ne pas traduire par suite d'images, infinité d'images, images en série, je ne sais pas, quelque chose comme ça, parce que ce serait effectivement plus proche de l'image qu'on a du manga, qui est une suite de vignettes et qui est finalement de la bande dessinée.
Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'au fond, les images existent depuis la nuit des temps, hein, depuis les premières représentations. Mais cette fois-là, on parle d'images mises les unes à côté des autres, comme vous le disiez, dans la longueur. Et est-ce que manga, au fond, ne signifie pas tout simplement bande dessinée, mais en japonais ?
Mais je crois bien que si, sans notion de ridicule, de dérisoire ou d'idiotie quelconque.
Nous sommes bien d'accord. Je reçois Karine Poupée, spécialiste du Japon et auteur du livre « Histoire du manga » paru chez Talendier. Nous nous retrouvons dans un instant.
Goûtez l'histoire de la ratatouille, ce ragoût de légumes qui embaume le midi. L'origine du mot est déjà tout un plat. Chacun de ses composants et condiments, aubergines, tomates, courgettes, poivrons, oignons et autres, ont une origine amusante et intéressante à découvrir, où l'histoire, la grande, n'est jamais très éloignée. La ratatouille ou les avatars de la mondialisation des légumes, une émission de notre chroniqueur gastronomique Jean Vito a téléchargé sur le site de Canal Académie.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à l'histoire du manga. Je reçois la spécialiste du Japon, Karine Poupée. Karine Poupée, vous êtes correspondante permanente pour l'agence France Presse. Au Japon, vous y vivez. Depuis 8 ans, vous avez écrit un premier livre sur les Japonais paru chez Talendier et chez ce même éditeur, donc une histoire du manga qui vient de paraître. Alors, nous avons évoqué la définition du manga que l'on qualifiera tout simplement de bande dessinée japonaise. Quelle est l'origine de cette bande dessinée ? Est-ce qu'on peut dater très précisément l'apparition de ces premières images qui sont mises bout à bout pour former une histoire ?
Je pense que oui. Je pense que oui. Et si je le pense ainsi, c'est parce que au bout de plusieurs mois de recherche, je me suis rendu compte qu'effectivement, tout ce qui pouvait exister dans la traduction picturale japonaise avant 1850 ne répondait pas pleinement à la définition de la bande dessinée comme art populaire, diffusée à large échelle. C'était des estampes, c'était des gravures, ce genre de choses qui étaient faites pour un public assez restreint, qui ne racontait pas vraiment une histoire. C'était surtout des images assez éparses. Et même si un grand maître d'estampes comme Hokusai a utilisé le terme manga, ça n'était pas dans la même acception. Donc moi, j'ai pris plusieurs critères pour dater l'apparition du manga de la fin du 19e ou du début du 20e siècle. J'ai adopté comme critère d'abord le fait d'utiliser plusieurs vignettes pour raconter une histoire. Ensuite, j'ai ajouté à cela le fait qu'il fallait des moyens de diffusion à très grande échelle pour que ce soit réellement un art populaire. Et pour ça, il n'y a pas de mystère, il faut des techniques d'impression. Et tout ça est arrivé au Japon dans cette période-là. Voilà comment je date le manga. Et je suis partie de ce point de départ-là. Donc ce que je trace dans ce livre, c'est 150, 160 ans de manga et non pas 1000 ans ou 300 ans de manga.
Vous datez même précisément, vous parlez de la date du 27 juillet 1881.
Oui, alors c'est la première trace qu'on a d'une histoire, si je me souviens bien, en 6 vignettes.
Exactement.
Et qui raconte la dureté du métier de journaliste ou les pièges du métier de journaliste. Je revois plutôt bien cette première bande dessinée qui apparaît dans certains archives ou dans certains catalogues d'exposition.
Alors très vite, et c'est vraiment la grande qualité de votre ouvrage, c'est cette imprégnation de la représentation picturale et de la société japonaise, vous venez de le dire, ces 6 vignettes qui représentent un métier, le journalisme. Et votre livre est constamment, j'allais dire, un dialogue entre d'une part cet art japonais et d'autre part cette société. J'allais dire, votre livre est à la fois une histoire du manga, mais aussi une histoire du Japon.
Ah oui, 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 une histoire même de la société japonaise. Il était absolument hors de question que je me contente de faire une histoire du manga brute. Pour moi, elle n'a de sens que replacée dans son contexte. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec le manga n'aurait pas pu se passer ailleurs dans un autre pays. C'est intrinsèquement lié à l'évolution de la société japonaise, aux événements politiques, aux événements historiques, à tous les événements qui ont marqué, et Dieu sait qu'il y en a eu, cette période de 1900 jusqu'à 2010, particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale.
Le premier, il y a des personnages un peu comme nous, nous avons notre Hergé. Mais à vous lire, on sent très bien qu'il y a plusieurs, je ne vais pas dire plusieurs pères du manga, mais puisque tous les Japonais visiblement disent que le père du manga est Osamu Tezuka, vous l'avez cité plusieurs fois, mais vous parlez d'un prédécesseur qui est Rakuten Kitazawa.
Oui, tout à fait, parce que... Et puis, il y en a une d'autres avant Osamu Tezuka. Ce qu'a fait Osamu Tezuka après-guerre, c'est installer des codes très précis de dessin du manga. Mais lui-même s'est inspiré de gens qui ont marqué son enfance, plusieurs sources. Hein. Alors, il s'est inspiré des étrangers, il s'est inspiré du dessin animé de Walt Disney. Et puis, il s'est aussi inspiré de ce qu'ont pu faire Kitazawa ou ce qu'ont pu faire d'autres créateurs avant-guerre. Alors, Kitazawa, ce que cet homme a fait, cet homme était un illustrateur de presse. Il faut savoir que le manga est né par la caricature, par le dessin de presse. Et que cette caricature et ce dessin de presse, en fait, il a été importé au Japon. Par un Français, par un Anglais, par des Américains, par un Australien. Donc, on peut dire que le manga est une création nippone inspirée de l'Occident. Et ensuite, on a réinstallé, on a japonisé, comme les Japonais le font pour tout, d'ailleurs. Ils importent. D'abord, ils font un peu la même chose. Et puis, ils se rendent compte très vite que ça ne marche pas dans leur société, ça ne colle pas avec leur société, ils japonisent. Et là, ça cartonne. Voilà. Ils l'ont fait avec les appareils électroménagers, ils l'ont fait avec tout ça. Hein. Donc, là-dedans, le manga n'est pas une exception. Alors, Kitazawa, lui, précisément, c'est un homme qui était un illustrateur de presse, qui avait appris auprès d'un Australien, si je me souviens bien, et qui s'est mis en tête d'utiliser le dessin et la bande dessinée pour faire bouger, réagir la société. Il a eu en ça un maître qui lui a dit « c'est ça le rôle du manga, de faire bouger la société ». Donc, Kitazawa était le premier à installer, par exemple, les héros récurrents. Hein, le même personnage qui revient régulièrement dans des publications. Il a été parmi les premiers à utiliser les bulles. Il a beaucoup joué avec l'image, il a beaucoup joué avec les codes, avec les symboles. Et puis, dans la foulée, sont arrivés beaucoup d'autres dessinateurs, dont ceux qui ont été inspirés par la publication au Japon de comics américains traduits.
Il y a, dans ce que vous dites, une idée qui est très importante, que peut-être nous n'avons pas assez soulignée, pas assez montrée, mais votre ouvrage débute par la présentation de cette société japonaise qui apparaît comme une société repliée sur elle-même, avec ses propres codes, et c'est avec l'arrivée des Occidentaux qu'il y a une véritable ouverture au monde.
Ah ben le Japon était totalement fermé pendant près de 3 siècles. On n'entrait pas au Japon. Il y avait juste une petite lucarne qui donnait sur le port de Nagasaki. C'était totalement fermé. Les étrangers n'avaient pas droit de citer au Japon. Bien, mais il y avait des tensions à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de gens qui se rendaient compte qu'il existait un retard du Japon sur l'Occident en matière de développement industriel, de sciences, de techniques. Donc les Japonais arrivaient à se procurer ce qu'ils appelaient quand même les études hollandaises, c'est-à-dire des recueils scientifiques qu'ils traduisaient pour voir un petit peu ce qui se faisait à l'étranger. Et puis sont arrivés les Américains qui n'en pouvaient plus de ce Japon qui se refusait à eux, qui ne voulaient pas ouvrir les ports, qui ne voulaient pas laisser leurs bateaux commerciaux faire escale. Donc les Américains ont forcé la porte du Japon. Et puis le shogun a fini par céder la place, redonner les pouvoirs à l'empereur. Et en 1868... l'empereur a retrouvé sa place de chef de l'État au Japon et avec de réels pouvoirs politiques. Et puis là, tout a changé brutalement. Le Japon s'est occidentalisé, d'une manière très violente d'ailleurs, hein, après avec un retour en arrière. Et puis bon, toute la suite, c'est ce Japon qui commence à gagner des terrains à l'étranger, qui se militarise et puis qui court jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.
Alors nous arrivons justement dans la première moitié du XXe siècle, que vous divisez en 2 parties. Il y a des ères que vous présentez, l'ère notamment Taisho, 1912-1926. Et c'est une époque où le manga apparaît à la fois comme une expérimentation pour les artistes, une distraction, mais aussi un vecteur de démocratisation. C'est-à-dire qu'il y a un aspect politique dans le manga.
Tout à fait. Alors là, on était dans un registre qui était encore assez proche de l'illustration de presse, hein, dans ces périodes-là. On n'était pas encore dans ce qu'on appelle le story manga, c'est-à-dire vraiment le manga qu'on connaît aujourd'hui qui se déroule sur des épisodes et des épisodes. Hein. Donc là, on était plus dans l'évolution de la caricature de presse, mais qui a accompagné effectivement tous les mouvements pro-démocratiques dans un Japon qui était encore aux mains d'une aristocratie ou bien de militaires. Hein. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Le manga a eu au départ un rôle politico-social qu'il a conservé par la suite ou qu'il a pris d'une autre manière. Voilà. Donc, en cela, le manga est intrinsèquement lié à l'évolution des mentalités japonaises. C'est pour ça que je dis aussi qu'il est un outil d'influence des modes de pensée, autant que la société l'inspire. Il y a cette interaction. Dans cette période-là, effectivement, cette période où sont apparues les bulles, par exemple, hein, l'ère Taisho, eh bien, le manga a été un vecteur de politisation de la société.
Est-ce que le manga, à cette époque, devient de plus en plus accessible? Vous parliez de démocratisation, un vecteur politique. Est-ce que cela signifie que, au fond, le manga devenait bon marché et que tout à chacun pouvait accéder à ses historiettes?
Il était diffusé sous forme de petites histoires en quelques vignettes dans la presse.
Donc tout le monde pouvait y accéder. Disons que cela va dans la libéralisation de la société.
D'autant qu'on était à cette période-là, une période où les gens savaient lire. Hein, c'est pour ça que je dis aussi que le manga n'est pas apparu 300 ou 600 ans en arrière, parce que les gens ne savaient pas lire, bonnement.
Ouais, ouais. Le manga est associé aussi aux enfants. Or, c'est visiblement aussi à l'occasion de l'ère Taisho que apparaissent les premières bandes dessinées pour enfants.
Oui, exactement. Avec Shōchan, qui a été la première bande dessinée pour enfants.
Qui a une particularité, puisque c'est, enfin, vous le comparez, même si ce n'est pas un Tintin japonais, qui a les mêmes histoires, il a les mêmes attributs, c'est un journaliste.
Ce ne sont pas tout à fait les mêmes histoires, mais il y a des vignettes de Shōchan où on se croirait dans Tintin. Moi, j'ai en tête une vignette où on voit le Shōchan en question dans un train, et là, je me dis, c'est frappant, c'est vraiment typiquement une vignette qu'on pourrait voir dans Tintin. La forme des phylactères, beaucoup de traits communs. Mais le Shōchan en question, il est apparu avant Tintin.
Exactement. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas les comparer.
C'est pour ça.
Ou peut-être qu'Hergé est allé au Japon, mais bon, je vais recevoir des courriers de titinophiles.
Non, je crois plutôt que la source d'inspiration des deux, du japonais qui a fait Shōchan et de Hergé, était ailleurs. Voilà. Et qu'elle était la même, finalement. Mais sans doute plus du côté du comics ou. Je ne sais pas
d'un autre côté, de l'évolution de cette civilisation, Tintin montrait dans un train, le train qui se généralise dans l'Occident. Le développement Tintin en Amérique, etc. Il y a un moment politique du manga qui est très important, c'est le développement au fond des dictatures et l'escalade militaire. Alors je parle du monde tout simplement dans les années 30 et les années 40. Est-ce que le pouvoir s'approprie ou sait s'approprier le manga à cette époque?
Alors oui, je répète toujours là dans un registre qui est du manga très proche de l'illustration de presse ou des petites histoires. Oui, bien sûr, le manga est devenu un instrument de propagande. C'était peut-être la partie la plus difficile à rédiger de ce livre. Pourquoi ? Parce que je me suis retrouvée confrontée à des informations contradictoires sur ce plan-là pour expliquer que effectivement beaucoup de mangaka, comme la plupart des citoyens, étaient entrés dans cet esprit militariste, étaient des va-t-en-guerre. Et on fait la promotion de l'armée à travers le manga. C'est d'autant plus frappant, ça a été d'autant plus, émouvant et peut-être même d'une certaine manière ennuyeux pour moi que j'ai retrouvé comme président et comme conseiller d'une structure gouvernementale chargée d'utiliser le manga pour faire de la propagande, eh bien les personnages dont j'avais loué la qualité, dont j'avais loué l'inventivité quelques pages auparavant, Rakuten Kitazawa et Ippei Okamoto. Alors, pour bien comprendre ça, pour pas se dire ces gens ont été des collabos, hein, parce que on pourrait faire immédiatement le parallèle et puis les condamner immédiatement. Il faut se replacer dans la société japonaise de cette époque. Se replacer dans la société japonaise de cette époque, ça veut dire que c'était un pays qui avait conscience de sa puissance, une population qui était globalement convaincue que l'empereur, que l'armée avait raison et qui était émerveillé devant les victoires de l'Allemagne nazie et qui voulait faire de même. Donc il y avait peu de Japonais, tout en souffrant à cette époque, ne doutaient des bienfaits de la guerre et de la victoire du Japon. Ça n'a pas été le cas. Ceux qui doutaient, on les appelait les anti-citoyens. Et ils étaient mis au banc de la société. Ils n'étaient plus Japonais dans leur propre société. Donc, de gré ou de force, les mangaka, tous les artistes.
Les mangaka étant les auteurs des mangas.
Oui, tous les artistes ont dû se prêter à cette propagande. Certains l'ont fait de très bon cœur. Hein. Certains, ils sont allés la fleur au fusil, on y va, on tire sur tout, ont même très bien réussi à tel point qu'ils ont aussi publié dans la presse hitlérienne. Donc tout allait bien pour eux. D'autres doutaient un petit peu plus. D'autres, tout en étant participants dans les associations gouvernementales de propagande, étaient inactifs. Et puis, ces gens qui doutaient et qui étaient appelés les anti-citoyens, eh bien, on retrouve leur histoire, et elle est ô combien étonnante, dans un manga que je conseille vraiment à tous, qui s'appelle « Gen aux pieds nus » dans sa traduction littérale, et « Gen d'Hiroshima » dans sa traduction française, qui est un manga autobiographique en une dizaine de volumes qui raconte toute cette période-là. Un jeune à Hiroshima, son père était contre la guerre. Et on n'achève pas ça sans pleurer, surtout si on aime le Japon. De se rendre compte à quel point la société japonaise est allée très loin à ce moment-là dans l'horreur.
Alors vous décrivez cette situation difficile, l'époque des totalitarismes, l'importance de la propagande, mais pour détendre l'atmosphère, nous n'avons pas évoqué les personnages. Vous venez de dire qu'il y a donc des personnages humains, mais il y a aussi des animaux. Et dans ces animaux, il y a un animal que j'ai remarqué particulièrement, qui a toute son importance dans la culture et dans la cuisine japonaise, c'est le poulpe. Et il y a l'histoire du poulpe Ashan.
Oui, alors le poulpe Ashan, c'est une histoire que j'aime bien. C'est une sorte de conte philosophique qui est signé Suyo Tagawa, un des mangaka qui a influencé ensuite Osamu Tezuka après-guerre, qui est aussi le papa d'un chien de l'armée impériale qui s'appelle Norakuro et qui a eu une immense importance dans l'histoire du manga. Et le poulpe Ashan en question, eh bien, est un poulpe qui veut vivre comme les humains, qui se fait pêcher par les humains, qui est intrigué par le fait que les humains ont des objets pour tout, des vêtements pour s'habiller, des lunettes pour mieux voir, des moyens de se déplacer. Et il veut vivre comme eux, mais malheureusement, pour obtenir tous ces objets, eh bien, il faut gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut travailler. Et puis, au fur et à mesure de sa vie humanisée, notre poulpe découvre que les humains, eh bien, ils meurent. Et qu'il faut les enterrer, c'est beaucoup plus problématique que pour les poulpes et que finalement, peut-être que la condition de poulpe n'est pas pire que la condition humaine.
Karine Poupée, nous nous retrouvons dans un instant. À tout de suite, restez à l'écoute de Canal Académie.
La gastronomie française sera-t-elle classée patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO ? La France a déposé une candidature en février 2009. La sénatrice Catherine Dumas présente le rapport qui éclaire sur les enjeux d'un tel projet. Les arts culinaires, patrimoine culturel de la France, une émission éclairage, les rapports du Sénat, à télécharger librement sur le site de Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de cette émission. Je reçois Karine Poupée, auteure du livre « Histoire du manga ». Paru chez Talendier. Karine Poupée, nous avons laissé nos auditeurs sur cette période négative, difficile, même s'il y a toutes des nuances à apporter au jugement et qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Mais alors, il y a une constante, finalement, après de telles périodes, c'est que généralement, il y a une libéralisation après. Donc, est-ce que après-guerre, on observe, tout comme par exemple, il y a eu une libéralisation après le Franco en Espagne, est-ce qu'on observe le même phénomène au Japon et dans la production des mangas?
Oui, un énorme phénomène de ouf, de la guerre est finie et de vision d'un autre monde. Alors, ça s'est produit dans la société japonaise de la façon suivante. On avait perdu l'honneur, on avait perdu la guerre, on avait perdu la foi en des moyens militaires. On a découvert là que le militarisme conduisait à l'horreur. Bon. Donc la société japonaise est devenue pacifiste et s'est juré de se reconstruire et de recouvrer son honneur par des moyens pacifistes en exploitant ce que le Japon a sous la main, c'est-à-dire sa matière grise, et ce qu'il en fait. Il n'y a pas de ressources naturelles au Japon, il n'y a que des cerveaux. Et à cette période d'après-guerre, les Japonais ont décidé de devenir des inventeurs et de changer la vie de la population. Eh bien, dans le manga, on a observé la même chose avec Osamu Tezuka, qui, à travers des mangas comme d'abord Shin Takarajima et La Nouvelle Île au Trésor, ou bien ensuite Tetsuwa Natomu, Astro, le petit robot, une autre vision du monde. Un monde fantastique, un monde où des robots se comportent comme des hommes, une vision idéalisée de la société japonaise.
Peut-être rappeler l'histoire, parce que le Astro Boy, ce qu'on appelle chez nous occidentaux Astro Boy, est vraiment révélateur de cette volonté d'une société future où, vu de l'extérieur, il y a beaucoup de bons sentiments, mais en tous les cas, on veut tendre vers une sorte de société idéale où la technologie y a toute sa place.
Ah oui, oui, ça a été un symbole vraiment pour la dynamique de reconstruction du Japon. Il faut savoir que ceux qui ont lu Astro Boy au moment où il est paru au Japon sont les gens qui ont emmené le Japon au rang de deuxième puissance économique mondiale. Astro Boy a créé des vocations scientifiques au Japon. On est impressionné du respect qu'il y a pour ce personnage dans la société japonaise.
Il y a même une statue.
Oh, il y a même mieux que ça, je veux dire, cette année, c'est très récent. Astro Boy, officiellement dans le manga, est né le 7 avril 2003. Eh bien, figurez-vous que cette année, il est censé entrer à un certain niveau scolaire, d'école primaire. Eh bien, une école l'a accueilli. Officiellement, un personnage est venu déguisé en Astro Boy et il va accompagner la scolarité des enfants qui sont entrés cette année-là en école primaire.
Est-ce que ça en devient un guide, mais un guide, j'allais dire, virtuel ?
Non, c'est un symbole. Les Japonais aiment beaucoup les symboles.
D'accord.
C'est un personnage qui a entraîné toute une génération, et il n'a pas été le seul, dans l'idée que la voie pour redresser le Japon était scientifique et technique. Et qu'elle passait aussi par une volonté farouche de l'ensemble de la population, par une témérité, et qu'il y avait là un moyen de recouvrer l'honneur. Et Astro Boy vraiment a été un symbole de cela. C'était très fort, c'était une volonté très forte dans la société japonaise. Il se trouve que c'est ce personnage qui emporte le signe le plus important.
Alors, nous disions tout à l'heure qu'il y a tout type, j'allais dire, de résultats dans cette production de manga. Et dans les années 50, vous parlez d'une dérive, et notamment à travers les Akaon manga, c'est bien cela, qui sont des mangas dont la pauvreté culturelle est plus importante, non ?
Les Akaon manga, en fait, pas vraiment, puisque Tezuka Osamu a commencé par là. Simplement, ces Akaon manga étaient publiés dans des mauvaises circonstances matérielles, sur du papier de très mauvaise qualité, avec de l'encre la pire qui puisse exister, puisque tout ça est originaire au départ de Osaka, qui n'était pas la capitale et qui héritait des plus mauvais matériaux. Donc les Akaon manga sont sur le plan narratif, ne sont pas des choses abjectes sur le plan narratif ou sur le plan du contenu, simplement publiées dans des mauvaises circonstances. Mais des Akaon sont nés des merveilles. Hein. Les trois premiers gros mangas de science-fiction de Osamu Tezuka sont sortis sous cette forme. C'est en fait sur leur mode aussi de distribution qu'ils étaient mal cotés, ces Akaon manga, parce que ce qu'ils faisaient n'étaient pas vraiment des éditeurs réputés, c'était plutôt des gens qui cherchaient le moyen de se nourrir. On était dans l'immédiate après-guerre et puis il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas forcément de travail. Voilà, donc il y avait un petit peu celui qui faisait ce type de publication, qui est devenu ensuite un grand éditeur de manga, raconte que pour lui c'était, c'est vrai, un petit peu un travail de mafieux. Mais je le répète, sur le plan de la narration,
du contenu,
n'était pas abject.
Alors, je reste dans cette idée un peu négative malgré tout, puisque vous accordez toute une partie d'un de vos chapitres sur précisément l'influence néfaste du manga, et certains qui ont même inquiété les parents, puisqu'il y a le fameux Ashita Nojo.
Ashita Nojo.
Voilà, c'est réclamé un groupe politique du Japon.
La faction armée rouge. Alors, on est plus loin dans le temps. Là, on est dans les années 70, alors que tout à l'heure, dans le Akaon, on était dans les années 40-50. Donc, tout au long de l'histoire du manga d'après-guerre, eh bien, il y a eu des conflits. Le manga, effectivement, n'a pas eu bonne presse pendant des années et des années, et puis aujourd'hui encore, il se fait tenser régulièrement dans la presse. Donc là, dans cette période-là, effectivement, c'était beaucoup plus inquiétant parce que des magazines qui étaient censés être destinés à des gosses de 13, 14, 15 ans, finalement, étaient lus par des étudiants sur les campus, sur lesquels il y avait des barricades, des étudiants en colère, parce que dans les années 70, les étudiants japonais étaient aussi en colère. Dans les années 60, ils étaient également très énervés. Voilà. Et donc, leur magazine favori était un hebdomadaire qui s'appelait Shonen Magazine, qui existe toujours d'ailleurs, et dans lequel il y avait un manga qui s'appelle Ashita no Jo, Jo de demain, qui est l'histoire d'un petit gars vraiment mal barré dans la vie, et qui finit par trouver sa voie dans la boxe, mais qui un jour, eh bien, se retrouve sans son adversaire de prédilection, puisqu'il est mort à la sortie du ring. Et bah, le jeu en question, il se dit, bah voilà, c'est foutu, moi, si j'ai pas cet adversaire-là, ma vie n'a plus de sens, la boxe n'a plus de sens pour moi. Et il est prêt à renoncer. Et à ce moment-là, s'interrompt la première partie de Ashita no Jo, et la faction armée rouge japonaise, donc un groupe terroriste, gauchiste, détourne un avion de Japan Airlines et lance aux médias « Nous sommes le jour de demain. Nous sommes Ashita no Jo. Wale wale wa Ashita no Jo des. Et à ce moment-là, effectivement, on a compris qu'il y avait entre le manga et l'aspiration d'une jeunesse et des revendications politiques un lien extrêmement fort. Et que toute une jeunesse était éprise par un manga et que pour s'adresser à cette jeunesse-là et lui dire « réveillez-vous, nous ne sommes pas défaitistes, nous allons au combat, nous sommes révolutionnaires », eh bien, l'Armée Rouge a utilisé cette image de Joe, cette image d'un manga. Je n'imagine pas vraiment, dans la société française, un groupe terroriste utiliser une image d'une bande dessinée pour faire comprendre un message à toute une génération.
Oui, mais alors, en vous écoutant, ce que je me dis, c'est que il y a plusieurs images, j'allais dire, très populaires, ou bien très people, si je peux me permettre d'utiliser cet anglicisme, dont nos politiques aujourd'hui occidentaux parlent très facilement, les séries télévisées, etc., etc. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que quand le fameux héros dont vous parliez tout à l'heure, qui meurt dans la série, donc qui s'appelle Riki Ishii, meurt, eh bien, ça fait les gros titres des journaux, et notamment, vous parlez d'un journal de droite libéral qui se demande qui a fait mourir Riki Ishii. Or, c'est une chose que nous, on critique occidentaux beaucoup aujourd'hui, de voir une sorte de popularisation de la culture qui atteint les institutionnels. Or, cette popularisation, elle, touchait les institutionnels au Japon il y a 30-40 ans.
Non, mais on est au-delà de ça. Là, vraiment, on était dans un mouvement de société, hein, vraiment où les étudiants lisaient tous Shonen Magazine. Donc, on était vraiment... Déjà, on n'était plus dans l'aspect commercial du manga, on était dans l'aspect politique du manga, déjà. Bon, tout ça est aussi effectivement bien orchestré par les maisons d'édition qui sont...
Très fortes en marketing.
Très, très fortes en marketing au Japon. Bon, au point que là, pour le Riki Ishii en question, des obsèques réelles ont été organisées. Voilà. Donc après, il faut faire la part des choses entre ce qui est du théâtre et entre ce qui est réellement un phénomène de société qui va au-delà du manga. Moi, je pense que dans ce cas-là, on est au-delà, vraiment. Parce que bah, ce n'est pas de la rigolade, la faction Armée Rouge. Hein.
Mais alors, il y a cette projection dans l'avenir, hein, c'est ce qu'a dit ce théoriste. Et vous prenez, là, d'un point de vue général, non pas avec une idée négative derrière mon propos, vous parlez d'une héroïne, Sazae-san, et son auteur Machiko Asegawa. Je vous cite, « Ils ont vécu une vie de femme née avant la guerre, dont l'existence a plus suivi le mouvement de la société qu'elle ne les a préfigurés ou modifiés. La génération suivante prit, elle, les devants. » Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on souhaite, à travers des histoires et à travers l'art, créer l'avenir et penser l'avenir ?
Alors, d'abord, il faut rappeler peut-être ce qu'est Sazae-san. Sazae-san, c'est une personnage qui a chaque jour raconté un petit peu sa vie en quatre vignettes dans la presse japonaise. Et Sazae-san, ben, on la voit vivre comme les Japonais, puis faire des réflexions du café de commerce comme tout Japonais. Voilà. Donc, elle n'était pas avant-gardiste sur la société, elle fonctionnait en même temps que la société. Quand j'ai cité cette phrase-là, c'est parce que j'aborde ensuite le rôle des femmes dans le manga. Et Sazae-san, elle, était une femme de la société qui subissait un petit peu. Alors que les femmes qui arrivent dans la génération 70, eh bien, on est à ce moment-là dans les mouvements féministes. On est à la veille de l'année internationale de la femme de 1975. Et on a une nouvelle génération de femmes japonaises qui entrent dans ce mouvement-là. Et parmi elles, des mangaka. Donc là aussi, on retrouve le lien entre mouvement de société et mouvement dans le manga. Et à partir de là, effectivement, on va voir apparaître des mangas beaucoup plus osés, avec un dessin féminin, avec une revendication féminine, avec des histoires qui n'ont plus rien à voir avec les mangas pour filles qui étaient précédemment dessinés par des hommes, et avec des femmes, oui, qui ont une force de caractère, qu'on ne retrouve d'ailleurs peut-être même pas au Japon à l'heure actuelle, mais qui là ont marqué les années 70 d'une manière extrêmement forte.
Malheureusement, il nous reste encore peu de temps, moins d'une dizaine de minutes, il y a encore énormément de choses à dire. Votre ouvrage se termine dans votre conclusion, en fait votre conclusion n'est pas vraiment une conclusion, c'est une réflexion tournée vers l'identité du manga et ce que pourrait être le manga de demain à travers notamment l'interview d'un auteur. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'au fond, les constats que l'on peut faire en Occident sont les mêmes que l'on fait au Japon. Le rôle du numérique dans l'accès à la culture. Il y a, vous le dites dans votre livre, des auteurs qui refusent d'être sous format numérique. Ils veulent garder la particularité d'être sous format papier. Mais il y a également des réflexions de cet auteur donc, que vous interviewez sur l'absence culturelle d'une génération, enfin la pauvreté culturelle d'une génération qui arrive et qui n'arrive même plus à lire et à suivre des mangas.
Oui, alors le manga, si on regarde bien au Japon, est en phase de déclin d'un point de vue commercial et d'un point de vue de l'attrait du public. Effectivement, moi j'ai interrogé des lycéennes qui m'ont dit « ouais, le manga c'est ennuyeux ». Bon, la jeunesse japonaise actuelle est pétrie d'angoisse. La jeunesse japonaise actuelle n'est pas du tout la même que celle qu'on voyait dans les années 60-70 quand elle manifestait à tour de bras. Donc Urasawa, hein, Naoki Urasawa, qui est l'auteur des enfants, des garçons du XXe siècle, 20th Century Boys, un merveilleux manga, eh bien, compare un petit peu ces deux aspects de la société. Pourquoi le manga, à l'heure actuelle au Japon, est en phase de déclin? Eh bien, parce que les yeux des enfants sont accaparés par autre chose, et notamment par le téléphone portable, et puis que les adultes, qui sont aussi au Japon un important lectorat du manga, bien s'en sont détournés à partir des années 90, parce que là, il y a une vraie très très forte polémique au sujet du côté malsain du manga, et que les adultes qui s'étaient mis à en lire comme un seul homme dans les années 80, eh bien, ont arrêté de le faire dans les lieux publics. Donc, dans les transports, qui étaient un lieu très important de lecture du manga dans les années 80, on a vu progressivement disparaître les adultes lecteurs de manga parce que ils avaient peur d'être regardés un petit peu de travers. Donc aujourd'hui, on en voit très très peu. Voilà. Alors, vers quoi va le manga aujourd'hui? C'est un point d'interrogation parce que moi, je me suis arrêtée à 2010. Et comme tout mon parcours tout au long du livre m'a montré que le manga évoluait parallèlement à la société japonaise, je me dis, la société japonaise aujourd'hui, elle est comment? Je dresse un portrait de la société japonaise d'aujourd'hui et puis j'attends de voir quels mangas en sortiront.
Alors, il y a bien d'autres idées. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Je retiens aussi, dans l'observation du marché, il y a un peu le même phénomène qu'en France. On a 5% de production qui marche très très bien et on a une grande majorité de la production, 95%, qui elle marche peu, un peu comme si il n'y avait que ces 5% qui tiraient vers le haut. Je parle de vente, les mangas. Je voudrais terminer sur deux images positives. Karine Poupée, Marie-Antoinette, qui est très bien considérée à travers une histoire que vous racontez.
Oui, alors Marie-Antoinette, c'est un produit commercial fantastique au Japon. Ça se vend très très bien. Grâce à Ryoko Ikeda, qui est l'auteur d'un manga qui s'appelle Versailles no Bara, La Rose de Versailles, qui a été diffusé sous forme de dessin animé en France sous le titre Lady Oscar, et qui prête à Marie-Antoinette un rôle plutôt agréable et qui fait pleurer toutes les japonaises. Toutes les japonaises sont en larmes devant les spectacles où sont remises en scène La Rose de Versailles et Marie-Antoinette. Voilà. Il faut savoir...
Il existe en France, il a été
oui,
traduit.
Oui, oui, oui. Il faut savoir à quel point ce manga, paru dans les années 70, a marqué les japonaises et a constitué un vecteur exceptionnel pour drainer des hordes de japonais au château de Versailles. À tel point que l'ambassade de France a été reconnaissante à Madame Ryoko Ikeda, la République française, en lui remettant la Légion d'honneur. C'est quand même pas rien. Parce que, effectivement, ça a été un moyen de faire connaître différemment la culture et l'histoire française aux Japonais, et particulièrement aux Japonaises, qui ont en plus trouvé dans Marie-Antoinette et dans les différents rôles de la Rose de Versailles des symboles pour les mouvements féministes de cette époque.
Alors, nous avons commencé avec Patrice Pellerin cette émission lors de mon introduction à Versailles. Nous la terminons à Versailles. Simplement un dernier mot. Le tome 13 d'un des nombreux mangas vient de sortir, Les Gouttes de Dieu. Eh bien, cet amour, enfin ce que doit Versailles à ce manga sur Marie-Antoinette, eh bien, le vin français peut valoir beaucoup à ce manga qui s'appelle Les Gouttes de Dieu, qui est ni plus ni moins qu'un manga consacré à l'œnologie, mais il y a le type de manga, c'est
le gourmet famille. Manga.
Voilà, oui. Le gourmet manga, je cherchais le mot. C'est un manga qui fait ni plus ni moins que l'éloge du vin français à travers 13 tomes merveilleux, et c'est une merveilleuse façon de découvrir pour les jeunes et les moins jeunes donc l'amour du vin, puisque ce sont des leçons sur ce merveilleux domaine. Karine Poupée, merci.
Merci à vous.
Je rappelle les références de votre ouvrage « Histoire du manga » paru chez Talendier. Et vous avez écrit un autre ouvrage chez le même éditeur intitulé « Les Japonais ». Je pense qu'il est encore disponible. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.